Animestar. Salut, c'est Alex, bienvenue dans ce 73e Anime Story, votre rendez-vous avec l'animation japonaise et le manga. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Alquier, connu entre autres pour la bande dessinée Surnaturelle, mais aussi le sublime Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia. Il est de retour aux éditions Kana ce 30 septembre 2022 avec sa nouvelle bande dessinée Senseiya Time Odyssey, coécrite avec Arnaud Dolen, une nouvelle bande dessinée sur les Chevaliers du Zodiaque. Il s'agit d'un format bande dessinée et en couleur qui paraîtra dans la collection Classics de Kana. Je l'ai rencontré à la Japan Expo le 16 juillet dernier et c'était l'occasion de faire le point sur cette sortie tant attendue puisque le tome 1 pointe le bout de son nez. Bonjour Jérôme Alquier.
Bonjour Alex.
Merci de nous accorder quelques instants pour Anime Story au sein de ce grand festival Japan Expo. Première question, comment se passe déjà ta venue à Japan Expo? Quel a été l'accueil du public par rapport à ce nouveau projet sur Senseiya? Est-ce que tu as déjà des questions qui fusent?
Ben oui, évidemment. Alors là, je suis là pour vraiment dédicacer Albator, puisque Senseiya devait sortir en fait pour ce festival. Et puis on a décidé de décaler un tout petit peu au 30 septembre la sortie. Bon, pour la faire très courte, parce que bon, avec tout ce qui était pénurie de papier, etc., on avait peur que le collecteur ne soit pas prêt. Et puis, il y a aussi Maître Kurumada qui nous a demandé un tout petit peu de temps pour tout bien relire, pour bien vérifier que tout était OK, ce qui est le cas, donc du coup, on est rassuré. Mais bon, pour pas qu'on se retrouve un peu le bec dans l'eau à la Japan Expo, on a décidé de décaler la sortie. Donc, je suis là plutôt pour Albator en termes de dédicace, mais c'est vrai que les gens, ils viennent sur le stand avec leur bouquin d'Albator, mais les questions, elles sont sur et le tome 1 de Seiya, et le tome 2, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, voilà, tu te doutes bien que les gens, ils demandent ça. Donc, tu vois qu'il y a une certaine attente, une hype aussi qui monte un petit peu autour de ça, qui n'est pas sans me filer encore plus la pression que ce que j'ai déjà, je n'en ai pas besoin, mais là ça monte encore plus aussi pour moi. Mais voilà, c'est très bienveillant en fait pour le moment, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on connaît un peu, tu les connais aussi, les fans de Senseiya, il y a vraiment des fans hardcore et qui sont passionnés par leur série quoi. Et il faut faire très attention quand on la touche. Donc voilà, j'ai conscience de tout ça, mais pour le moment je reçois que des messages bienveillants, donc ça fait du bien. Ça diminue un tout petit peu la pression qui est déjà très grande.
J'imagine la pression, effectivement, comme tu le disais, les fans de Senseiya sont très exigeants. T'en es pas à ton premier coup sur Senseiya, mais je me souviens quand je t'ai vu et connu la toute première fois, c'était déjà sur Senseiya. C'était sur un trailer qui nous avait tous enchantés. Là, concernant donc ces futurs albums, donc qui sortiront chez Kana, c'est le stand sur lequel on peut te retrouver à Japan Expo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le pitch, sur l'histoire, en tout cas de ce premier tome?
Ah oui, je peux te dire quelques petites choses. Alors déjà, c'est une série qui va s'étaler en 5 tomes. parce que l'idée c'est de mettre un petit coup de projecteur sur chacun des 5 chevaliers de bronze. C'est vrai que plus l'histoire avance, plus on se rend compte que le coup de projo, l'arc Asgard par exemple, en est un beau témoignage, c'est qu'on a tendance finalement à mettre un peu un coup de projecteur sur les antagonistes, parce que les chevaliers de bronze, on les connaît bien, quoi. Moi j'avais envie, malgré tout, avec mon ami Arnaud, qui est co-scénariste, de gratter encore un petit peu plus la mythologie des personnages principaux, parce que moi je les aime, hein, c'est Yashiryu, Yoga, Shaniki. Et du coup, voilà, on va évidemment raconter une nouvelle histoire avec un nouvel antagoniste, avec des nouveaux méchants, etc. Mais malgré tout, je veux quand même recentrer les albums sur les chevaliers de bronze. Donc il va y avoir un album par chevalier de bronze, on va dire, même si l'histoire est en continu et tous les chevaliers interviennent. Mais il y aura vraiment un petit coup de projecteur sur un des chevaliers de bronze, plus particulièrement sur chaque album. C'est pour ça qu'il y en a 5 des albums. Et le premier sera sur le personnage de Ikki du Phénix. Voilà, parce que c'est un personnage que personnellement j'adore. Et puis qu'on pouvait pas commencer par Seiya, il fallait finir par Seiya, notre je sais pas, pentalogie, ça se dit, je sais pas. Mais donc du coup, c'est Ikki du Phénix qui est le premier. Et je peux pas trop dévoiler pour l'histoire, mais on a choisi aussi Ikki, pas juste parce que je l'aime bien, mais parce que c'est sa renaissance face au Chevalier d'Argent qui est l'élément déclencheur de notre histoire. Le fait que l'antagoniste de l'histoire va intervenir justement dans l'histoire. Et un des autres objectifs de ce projet-là, c'est évidemment qu'il est tout fait en collaboration avec Kurumada et toutes les équipes japonaises qui entourent Kurumada, à commencer par son éditeur Akita Shoten. L'idée, c'est d'essayer de remplir un petit peu, pas les trous, mais les zones d'ombre laissées par Kurumada dans son œuvre originale, comme soit parce qu'il n'avait pas eu le temps de le développer, soit parce qu'il n'avait pas eu envie de le développer pour ces personnages-là et se concentrer sur d'autres, comme par exemple le maître d'Iki de l'île de la Reine de la Mort, etc., ou de la mythologie des armures elles-mêmes, pardon. Et voilà, on va essayer donc du coup de combler un peu les trous, et en même temps, il y a des choses qui vont se passer dans notre histoire qui vont expliquer des choses que l'on connaît depuis toujours, qui sont dans l'histoire originale de Kurumada. Donc en fait, il y a une double imbrication comme ça qui est un exercice scénaristique assez sympathique à réaliser et un peu challenge, quoi. Et par exemple, dans le tome 1, vous allez avoir enfin des réponses officielles, hein, donc validées par Maître Kurumada, sur la mythologie de l'armure du phénix, pourquoi l'île s'appelle l'île de la reine de la mort et pas autre chose, pourquoi c'est un ancien bout du continent de Mu, est-ce que Ikki est le premier ou pas porteur de l'armure du phénix, et puis vous allez même savoir certaines choses que vous connaissez déjà depuis l'œuvre original de Maître Kurumada, pourquoi Shen a été choisi comme étant la réincarnation d'Hadès. Ce genre de choses, en fait, est expliqué au travers de notre album qui fait un petit peu des sauts entre l'œuvre originale, notre histoire et de nouveau l'œuvre originale pour essayer d'expliquer des choses. Donc c'est assez intéressant comme construction. Le tome 1 se passe avant la bataille du sanctuaire des 12 maisons, donc à la fin des Chevaliers d'Argent, parce que c'est la renaissance d'Iki qui est le point déclencheur, donc c'est là que va commencer notre histoire. Mais ça ne veut pas dire que toute la série, enfin toute notre aventure va se passer à ce moment-là. En fait, elle va intervenir à différents moments de l'histoire originale. Et le tome 2, par exemple, sur lequel je travaille, qui est sur c'est sur Shen d'Andromède, le tome 2, il sera après la bataille des 12 maisons. Donc en fait, tu fais un saut de l'ange entre avant et après la bataille des 12 maisons, entre le tome 1 et le tome 2.
Tu as évoqué Maître Kurumada, donc l'auteur originel du manga. Comment se passe le travail de relecture? Quels sont les délais? Est-ce que c'est juste un regard qu'il a dessus, une validation? Ou est-ce qu'il amène quand même aussi quelques pierres à l'édifice, il vous donne des pistes? Comment ça se passe le travail avec Masami Kurumada?
Écoute, à peu près aussi bien que se passait le travail avec Maître Matsumoto. Donc on travaille, en fait, moi je fournis tout à mon éditeur français, enfin franco-belge, qui est Kana. Et après c'est eux qui se chargent de traduire tout ce que je fournis pour l'envoyer au Japon pour les validations. Et il y a eu un point vraiment d'inflexion dans notre collaboration qui a été très très bénéfique pour moi. C'est qu'au début, quand on envoyait les choses, on nous disait « mais oui, on a trouvé ça très bien, continuez comme ça, c'est très intéressant, Maître Kurumada est très content, il a beaucoup apprécié le dessin, il sait qu'il peut faire confiance en 100%, etc. » Donc c'était très très motivant au début d'un projet, tu vois, parce que j'avais peur, hein. Forcément j'ai peur, quoi. J'ai eu peur pour Albator, j'ai peur pour Senseiya, parce que c'est des licences qui sont tellement chères à notre cœur que, voilà, moi je suis Peter Jackson à qui on dit « tu fais le Seigneur des Anneaux, quoi ». C'est exactement pareil. Donc enfin toute proportion gardée évidemment, hein. mais voilà, l'idée c'est ça quoi, et je veux pas la trahir, je veux qu'il soit vraiment fier comme premier lecteur. Et les retours étaient très très sympas, mais il n'y avait pas trop de corrections sur le contenu. Et il nous disait, voilà, vous avez carte blanche pour faire ceci ou cela quand j'ai fait telle zone d'ombre. Justement, vous pouvez vous inclure dedans et écrire ce que vous voulez. Mais au bout d'un moment, je me disais, mais quelle est vraiment... Tu vois, je me suis posé cette question-là. Quelle est finalement l'implication ? Il y avait assez peu de remarques négatives. Je ne sais pas que j'attendais, je voulais des remarques négatives, tu vois. Je préfère qu'il n'y en ait pas. Mais quand tu n'en as pas, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais est-ce que tu n'en as pas parce que c'est un survol qu'il fait ou est-ce qu'il rentre vraiment dans le cœur du sujet ? Et alors, il y a eu une scène au milieu de l'album qui fait intervenir Death Mask. Voilà, c'est une petite scène de flashback avec lui. Et là, j'ai eu une déferlante de remarques concernant les dialogues de Death Mask, où il trouvait justement que Maître Kurumada disait bah ouais, c'est pas exactement comme ça que je le vois. Là, je trouve qu'il fait un peu exécutant du pop, avec beaucoup de à vos ordres, très bien, Georges obéit. Et moi, c'est pas tout à fait comme ça que je le vois, parce qu'il est au même niveau que le pop, il est chevalier d'or lui aussi, il est aussi très conscient de qui est le pop, enfin, que c'est Saga et tout, c'est un des rares au sanctuaire à connaître la véritable identité du pop. Et ça. Donc il faut pas qu'il y ait cette notion de servitude, quoi. Il faut au contraire qu'il montre qu'il fait les choses pour son intérêt personnel, quoi, pour mettre une tête de plus sur ses murs, etc., quoi. Et là, j'ai compris, ah ouais, non, mais en fait, il regarde, mais tout vraiment dans le détail. Et on a fait 3, 4, 5 allers-retours sur les dialogues. Mais c'est quoi? Mais c'est 4 ou 5 dialogues, tu vois, un truc, mais tout petit dans l'album. C'est pas du tout essentiel dans l'album. Et malgré ça, on a fait plein de petits allers-retours sur ce personnage-là. Et là, j'ai percuté, en fait, qu'il disait, mais tout, mais extrêmement précisément. Et ça m'a donné vachement de force parce que je me suis dit, s'il n'y a pas eu de remarques jusqu'à maintenant, ça veut dire que, en fait, tout était nickel, quoi, tu vois. Et ça m'a fait du bien d'avoir ces remarques, pas négatives, mais d'avoir ces corrections à faire parce que je me suis dit, ouais, là, j'ai la preuve que vraiment, il regarde tout, quoi. Et donc, ça donne d'autant plus de force quand tu reçois des messages pour dire, oui, là, tout va bien. Ça veut dire que vraiment, tout va bien, quoi. Voilà, ça a été le point d'inflexion dans le projet qui a fait que la collaboration a pris une ampleur supplémentaire. Mais oui, c'est super, hein, c'est super de collaborer avec un auteur comme ça. C'est pas à toi que je vais l'apprendre, Alex, quoi. On a à peu près le même âge. Enfin, t'es plus jeune que moi, mais on avait les yeux qui brillaient en regardant la télévision, en regardant les chevaliers. Aujourd'hui, j'ai la chance de créer des trucs sur les chevaliers, quoi. Je me rappelle quand un épisode s'est terminé, que tu voyais le bandeau, auteur, Masami Kurumada, tu disais, ça y est, c'est terminé, il va y avoir la pub, il va y avoir Corbier qui va recevoir un seau d'eau sur la tête et il va falloir que j'attende une semaine de plus pour avoir la suite. J'avais envie de téléphoner à Maître Kurumada, tu vois, dire, mais qu'est-ce que vous avez prévu pour l'épisode suivant, tu vois? Et là, je reçois des messages pour dire, c'est vraiment super, on a hâte que vous nous envoyiez les prochaines planches pour voir ce qui va se passer et tout. C'est lui qui nous écrit ça, quoi. C'est incroyable, tu vois, c'est le monde à l'envers. Tu me connais, on se connaît depuis longtemps. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable de vivre ça.
C'est effectivement une sorte, de rêve, un peu comme tu l'as vécu avec Leiji Matsumoto. Et puis, c'est gratifiant d'avoir ce retour constructif. Et comment ça se passe avec Kana? Parce que Kana te fait confiance pour la deuxième fois sur une sur une très grande série. Comment on travaille comme ça avec un éditeur, d'autant plus sur un format BD, hein, puisque je rappelle que ce sera pas un format manga, c'est un format BD. En couleur, avec de très très belles couleurs. On a vu quelques planches que tu nous as diffusées sur les réseaux. Comment ça se passe avec eux?
Alors d'abord, Kana, dès qu'on a commencé à parler de projets d'adaptation de séries télé en bande dessinée, moi, tout de suite, avec Albator en l'occurrence, parce qu'on a initié la collection Classics avec Albator, tout de suite, moi j'ai vraiment dit à Kana, moi je veux pas faire de manga, hein, je veux faire vraiment de la BD franco-belge. Et donc c'était un peu surprenant parce que Kana du coup fait pour la première fois de la BD franco-belge avec Classics, hein. C'est bon, évidemment ils sont dans le même groupe que Dargo, Le Lombard, qui eux ont l'habitude de ce format-là, mais Kana c'est vraiment manga. Donc c'était un petit challenge déjà en termes de format. Et je me souviens très très bien d'une réunion qu'on avait eue avec Akita Shoten justement, donc qui est le l'éditeur de Masami Kurumada et de Leiji Matsumoto au Japon. Et je me rappelle que le responsable directeur éditorial d'Akita Shoten, Monsieur Kobayashi, dans la discussion, essayait de nous faire venir sur... vous voulez pas le faire en manga quand même, plutôt que... Parce que c'est plus facile pour eux pour le sortir, quoi, tu vois. Parce que c'était prévu qu'ils le sortent là-bas. Et moi, j'ai dit, non, c'est hors de question. Et j'ai dit, mais vous savez, qu'est-ce que je vais vous apporter en manga? Enfin, des mecs comme moi, vous en avez 10 à tous les coins de rue, quoi, au Japon. Je maîtrise pas le manga comme le Japon le maîtrise. Qu'est-ce que je vais vous apporter à faire un manga? Au contraire, moi je trouve ça intéressant de vous apporter mon savoir-faire, ma culture, qui est la culture française. Et je voulais aussi que les albums, comme c'est présenté comme, auprès des auteurs comme un projet francophone, dérivé de leur œuvre originale, mais pour le public français, et après tant mieux si ça se dispatche partout dans le monde, et on va en parler si tu veux, mais c'était un projet francophone, je voulais qu'il y ait l'ADN de la France en fait dans ce projet-là. C'est pour ça que ça s'appelle Capitaine Albator et pas Capitaine Harlock, parce que chez nous c'est Albator. C'est pour ça qu'il y a le sous-titre des Chevaliers du Zodiaque sur le titre de Saint Seiya, parce que voilà, on l'a connu à la télévision comme étant les Chevaliers du Zodiaque. Pour Albator, j'avais mis plein de références à l'histoire avec un grand H d'Albator en France. J'avais demandé à Richard Darbois de reprendre son rôle 40 ans plus tard pour nous faire la bande-annonce. Tout ça, c'est vraiment pour les fans français. C'est sûr que les Japonais, ça va pas leur parler, quoi. Mais sur Saint Seiya, c'est pareil. J'ai envie d'y retrouver un petit peu l'ambiance Club Dorothée qu'on pouvait avoir. Donc voilà, ça c'était un premier argument, plutôt artistique, quoi. En disant, voilà, j'ai un savoir-faire de franco-belge, je voudrais l'apporter pour faire quelque chose de différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Mais je sentais que c'était encore un petit peu limité comme argument. Et comme il est éditeur, Kobayashi, je lui avais dit, mais vous savez, d'un point de vue éditorial maintenant, je pense vraiment que les gens qui sont les premiers lecteurs de notre projet, de la collection Classics, sont des gens qui ont grandi dans les années 80, qui lisaient du franco-belge et qui connaissaient pas le manga, quoi. Ils connaissaient que le produit dérivé qui était le truc télévisuel qu'ils voyaient à la télé. Et donc, leur donner un format en couleur qui rappelle la Madeleine de Proust de la télé, pour moi c'est le format qu'il faut pour nous. Après, si c'est pas pour vous, c'est pas grave, mais c'était pour nous, c'était comme ça qu'on le voyait. Là, il fait, c'est vrai que c'est intéressant pour le public cible et tout machin. Et quand on a envoyé les premières planches pour Albator, ils étaient impressionnés du rendu en fait, parce que ça ressemblait à un artbook, tu vois, pour eux. Et ils étaient super contents parce qu'ils n'ont pas ça du tout chez eux. Et ça a été édité là-bas en numérique. Et là, je te fais un petit scoop si tu veux, mais si on a décalé, comme je te le disais tout à l'heure, c'est parce que Maître Kumada voulait tout relire une dernière fois. Et donc on s'est dit, si jamais il y a des corrections et tout, on va jamais réussir à faire passer l'album pour la Japan. Donc on va tout décaler pour être sûr. Et en fait, non seulement il n'y a rien eu à corriger, mais Kurumada a fini de lire, il a posé l'album, il a pris son téléphone, ça s'est passé comme ça, on a eu vraiment le retour d'Akita Shoten. Il a appelé Akita Shoten, il a dit, ça, je veux que ce soit édité chez vous, avant la France. Et vous coupez l'album en deux. Moi j'ai un one-shot qui est pré-publié dans le Red Champion, qui est le Shonen Jump d'Akita Shoten, le mensuel. En août, il y a un one-shot de Kurumada. Il a dit, je veux que la moitié de l'album de Jérôme soit en juillet et l'autre moitié en septembre. Et donc là, à l'instant où on parle, je crois que c'est le 15 juillet, donc ça devait être hier, est publié en pré-publication mon album au Japon en couleur, dans le sens de lecture européen, tout écrit en japonais, etc. quoi. C'est incroyable, incroyable. Et c'est Kurumada qui a posé ça sur la table et qui l'a imposé, quoi. Donc c'est pour te dire, tu parles comment se passe la collaboration, tu vois, c'est dream, quoi. Je peux pas rêver mieux, quoi.
Effectivement, oui, là, je te remercie pour les scoops. Bah, du coup, ouais. On en a eu plusieurs. C'est effectivement idyllique. Et pour le coup, tu nous as parlé de 5 tomes. Alors, on a parlé d'un collector. Ouais. Est-ce que chaque tome aura droit à son collector ou c'est uniquement le volume 1 qui aura droit au collector? Comment ça va se passer pour cette édition en France?
Alors, je suis très frustré du fait qu'il n'y ait eu qu'un collector pour Albator et pas pour les tomes 2 et 3. Plein de raisons, ça n'était pas possible, mais on va pas revenir là-dessus. Mais il n'empêche que j'ai été frustré de pas offrir un collector à chaque album. Et du coup, j'avais pas envie que la chose se reproduise. Donc, je l'avoue que je l'ai joué un peu tactique. Et j'ai expliqué à Kana que dans le collector du tome 1, je voulais qu'il y ait du contenu additionnel, pas un peu de storyboard par-ci ou quelques crowbars de recherche par-là, où en effet, tu peux te limiter à un seul collector sur la collection. Mais je voulais qu'il y ait vraiment un coup de projo, comme on parlait tout à l'heure sur chaque chevalier de bronze, un coup de projo sur la mythologie de chacune des armures de bronze. Donc j'ai vraiment fait un contenu additionnel par chevalier. Un peu pour pousser la porte de... Vous voyez, il faut vraiment le faire pour chaque album. Et bon, mais bon, j'ai pas eu beaucoup à forcer parce qu'ils étaient convaincus qu'il fallait en faire pour chaque album. Donc oui, la réponse est oui, il y aura un collector pour chaque album. Le tome 1, il est publié avec, pour le moment, 15 000 collectors, qui est encore plus que ce qu'il y avait sur Goldorak et infiniment plus que sur Albator, qui avait seulement 3000 exemplaires. Je sais pas si ça suffira, parce que manifestement, à ce qui paraît, il est largement précommandé, donc tant mieux. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un contenu additionnel pour que les fans vraiment hardcore, on en parlait tout à l'heure, puissent vraiment y trouver leur compte, quoi. C'est-à-dire que si tu aimes bien les chevaliers, mais que t'as pas une licence Bac plus 8 en chevalier, bon, la version classique, il n'y a pas de problème. Tu vas tout comprendre à l'histoire. Mais si tu veux aller un tout petit peu plus loin, rentrer dans la mythologie des armures, rentrer dans les toutes petites coulisses de fabrication, mais ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, toi et moi, sur la collaboration avec le Japon, les retours, les messages, les modifs, les recherches graphiques, la mythologie de chaque nouveau personnage, etc. Là, il faut le collector parce que tu as 24 pages additionnelles, 16 de making-of, et puis 8 vraiment liées à une genre de side story sur l'armure du phénix pour le tome 1, et ce sera à chaque fois sur la mythologie de chacune des 5 armures de bronze célèbres. La deuxième sera donc sur l'armure d'Andromède, et crois-moi, il y a plein de choses à raconter, et notamment on va faire tomber les tabous de la légende des masques des femmes chevaliers, qui n'est absolument pas du tout comme la série originale le prétend, pour masquer leur laideur ou ou cacher leur féminité, je ne sais quoi d'autre, mais qui provient en fait de l'armure d'Andromède. Vous allez voir tout ça, voilà. Et ce contenu vraiment additionnel, il est vraiment dirigé fan. Donc si vous êtes super fan des chevaliers, que vous connaissez l'original sur le bout des doigts et que vous êtes triste de pas avoir tous les détails que vous voulez par Kurumada, bah, vous allez découvrir plein de choses dans les collectors.
Bon, bah, c'est parfait. On attend ça avec impatience. Est-ce que tu crois, pour le coup, parce que Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, Cavalieri dello Zodiaco, The Knight of the Zodiac, la série a quand même rayonné à peu près dans le monde entier. Est-ce que tu penses justement que ton album va pouvoir être édité aussi pour tous nos amis européens, voire outre-Atlantique et de partout dans le monde ?
Alors, je ne peux pas répondre à la place de Kana, mais je vois passer des contrats. Le fait qu'on ait travaillé sur Albator avant, et qu'Albator a été publié en Espagne, chez Trablanca, en Italie, chez Panini Comics, aux États-Unis chez Ablaze, en Angleterre aussi, vous le trouviez, mais via Ablaze, au Canada. Je ne sais pas comment s'appelle l'éditeur, mais j'ai même fait des jaquettes exclusives pour ces territoires-là. Il a été édité au Japon, en format numérique, on l'a dit tout à l'heure. Pour Saint Seiya, évidemment, comme tu dis, les autres pays qui ont connu les Chevaliers Zodiac, avec les noms que tu as cités, évidemment, se sont déjà jetés chez Kana pour présenter leur dossier et essayer de récupérer la licence. Donc je sais qu'il y aura une version espagnole, j'ai vu passer une version espagnole, pour l'Espagne, une version espagnole pour l'Amérique latine, une version, je crois, portugaise et brésilienne, c'est évidemment avec la même langue, mais c'est deux éditeurs différents, manifestement, d'après ce que j'ai pu comprendre, une version italienne, il y a une version japonaise, je te l'ai dit tout à l'heure, chez la Champion, je crois qu'il y a anglais, bien sûr, j'ai vu passer Scandinavie, je crois, polonaise, il me semble, russe aussi, il me semble aussi, même si aujourd'hui c'est peut-être moins d'actualité. Et puis je crois qu'il y a encore un pays nordique, ou un truc comme ça. Oui, danoise, je crois. Et donc oui, je pense que ça va rayonner. Après, il faut pas se voiler la face. Les fans les plus hardcore sont en Amérique latine, mais je suis pas certain qu'en quantité ils soient plus grands, tu vois, que le public français. Donc je pense que la publication française sera clairement la plus massique. Mais oui, et d'ailleurs on est en train de discuter pour aller faire la sortie italienne au festival de Luca, ça doit peut-être te parler, de Luca, qui est près de Pise. C'est un genre de gros Japan Expo, peut-être plus festival Angoulême, avec plein de chapiteaux partout dans la ville, à ce qui paraît. Et voilà, il est prévu d'aller faire la sortie italienne de l'album, finalement très peu de temps après la France. Et ça, c'est bien, parce que je voulais pas qu'il y ait trop d'écart, sinon les gens, ils auraient acheté la française et fait traduire et tout. Donc ça, c'est très bien. Et puis, on parle même de peut-être faire un live drawing musical avec les musiques de Saint Seiya dans des ruines antiques, tu vois, gallo-romaines. Enfin, ça, voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc, c'est très excitant, en fait. Voilà. Donc oui, dans les pays étrangers, il y aura beaucoup de versions.
Pour toi, oui, on comprend bien que c'est une aventure qui te tient à cœur, une aventure unique, un peu comme celle que tu as vécue avec Albator. Est-ce que tu penses que ces albums pourraient donner éventuellement naissance à une série, série d'OAV, série télé est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible ou pas ?
Moi, je me garderais bien de faire toute prévision sur l'avenir. C'est sûr que si quelqu'un est intéressé pour en faire une version animée, évidemment, moi, où est-ce qu'on signe, quoi ? Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour du tout. Moi, je suis concentré sur vraiment la réalisation des albums. Je suis même pas concentré sur une éventuelle autre future licence qu'on pourrait faire, etc., dans la collection. Je suis vraiment à 150% sur Saint Seiya et sur ce que j'ai à faire. Puis après, écoute, C'est pas pour autant que j'en rêve pas, tu vois. Quand je fais mes schémas d'armure des nouveaux personnages et que je mets les schémas de montage avec les petites bulles comme fait Kurumada pour dire, voilà, vous pliez le truc comme ceci pour l'accrocher sur la forme objet. Bon, c'est vrai que j'imagine vachement l'ami de Klaus qui va avec, quoi. Mais voilà, ça reste de l'ordre du rêve. Je pense pas à ça au quotidien en travaillant, quoi. Chacun son métier. Moi, je fais la BD et puis après, écoute, elle deviendra ce qu'elle deviendra. Qu'elle fasse plaisir aux fans qui vont l'avoir entre les mains et qui vont la lire. Ça, ce sera mon meilleur cadeau. Puis après, tout le reste, ce sera le glaçage de la cerise du gâteau, quoi.
Et tu travailles actuellement sur le tome 2 ou le tome 2 est quasiment fini et t'es déjà sur le tome 3 ? En termes de rythme de travail, tu es comment ?
J'aimerais bien qu'il soit fini, mais on est loin de ça. Je suis sur je suis à peu près à un tiers de l'album. Je pense que j'aurai dépassé la moitié quand le tome 1 sortira. Et le tome 2 devrait, a priori, si mon rythme se maintient comme ça, devrait être présent pour la Japan Expo Paris de l'année prochaine, où on aura un très gros stand dédié à Senseiya avec un temple grec, une statue d'Athéna, ce qu'on aurait déjà dû avoir cette année. Vous aurez la close box de Pégase que vous pourrez mettre sur le dos pour prendre des photos et tout. Et donc, on espère vous recevoir l'année prochaine à la même date avec déjà le tome 2 dans les bacs.
Une des dernières questions que je voulais te poser, tu y as un peu répondu avant, tu disais que pour l'instant tu pensais pas trop à la suite, mais nous forcément quand on a vu le résultat d'Albator, qu'on voit déjà les premières planches de Senseiya, on imagine ce que tu pourrais faire sur d'autres séries, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des séries comme ça qui te tiennent aussi à cœur ? Alors, même pas forcément japonaises, mais moi, je me suis plu à imaginer que tu pourrais écrire la fin de Jace et les Conquérants de la Lumière en BD, parce qu'on l'a jamais eu en dessin animé. Est-ce qu'il y a des projets comme ça qui pourraient naître ensuite et qui te tiendraient à cœur ? Déjà, des séries que tu aimerais poursuivre ou développer ?
Alors oui, la réponse est oui, bien sûr, même si je prétends que je suis à 150% sur Senseiya, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres dossiers qui ont été montés. Moi j'aimerais clairement, après c'est un rêve perso, je sais pas si les ayants droit seraient partants pour, et puis moi je sais que la licence est un petit peu compliquée aujourd'hui, moi j'adorerais faire un 27e épisode d'Ulysse, d'Ulysse 31, si vraiment il y a trois séries qui sortent du lot dans ma vie, c'est Albator, Senseiya, j'ai la chance d'avoir bossé dessus, et c'est Ulysse 31. Dès que la licence est de nouveau dispo, parce qu'elle est un petit peu bloquée actuellement, c'est vrai que j'aimerais bien que le dossier qu'on a sur la table sur Ulysse, avec Kana aussi, hein, on en a fait un avec Kana, puisse se réaliser. Ça, ce serait la boucle serait totalement bouclée. Et puis oui, Jace, on en a parlé. Il y a beaucoup de gens aussi qui aimeraient bien faire un dernier épisode de Jace. Après, c'est peut-être moins, un peu plus underground, quoi. Jace, c'est moins connu et c'est plus de l'ordre de la niche de fans. C'est sûr que Goldorak, c'était un tel raz-de-marée stratosphérique en termes de rayonnement, de vente aussi pour Kana, quoi. Que c'est vrai qu'une série comme Jace, on n'a pas du tout les mêmes attentes, mais après ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, au contraire, hein, moi j'adorerais faire Jace, mais ce serait un one shot, je pense, tu vois, sur vraiment faire un dernier épisode qui serait à mon avis assez proche. Il y avait un bouquin qui était sorti qui parlait de ça, c'était Straczynski, là, donc Michael Straczynski, qui était un des scénaristes qui a fait Babylon 5 plus tard, qui avait écrit, je crois c'est lui qui avait écrit un petit peu une sorte de dernier épisode de Jace, qui ressemble d'ailleurs beaucoup dans ce qu'il avait écrit à l'épisode spécial, tu sais, du monde des rêves, où ils vont sur une planète et où ils battent Discord, en fait, où Discord est réduit à l'état de toute petite plante, etc. Il paraît que le dernier épisode devait quand même pas mal ressembler à ça. D'ailleurs, quand je l'avais vu, moi, je crois que c'était le dernier épisode. Et donc oui, ça fait partie des licences qui nous plairaient bien. Et puis j'aime beaucoup Jace, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'ai fait les coffrets DVD à une époque, j'ai refait il y a pas très longtemps le coffret collector grand format avec le artbook complet à l'intérieur, avec une collaboration avec Bernard Derriès qui avait tout relu, qui m'avait donné plein d'infos, pourquoi Jace il a la mèche blanche et tout, etc. Donc ouais, ça fait partie des licences qui me plairaient bien. Bon, après il y en a plein, hein, mais à Kana, on m'a dit qu'il fallait que je partage un peu.
Oui, certes, mais est-ce que dans ce style de licence, on a parlé pas mal de séries, on va dire, j'aime pas dire ça, mais plus garçons, est-ce que ça pourrait pas être aussi des licences shoujo? Je pense à Candy forcément, même si je sais que c'est un peu compliqué sur cette licence-là, mais voilà, d'autres séries peut-être plus shoujo.
J'avoue que je suis moins tenté, moi perso, c'est moins ma came en fait, quand je regarde. Je pense que le plus shoujo que vraiment j'ai kiffé, c'est Lady Oscar, si on peut appeler ça du shoujo. Hein. Mais je pense que le manga l'est davantage que la version animée. Je pense aussi que j'étais bien aidé pour la version animée par Araki Himeno.
Oui.
Hein, ça doit bien aider aussi pour bien aimer. Et Sugino Dezaki aussi pour la deuxième partie. Mais voilà, donc je suis un peu moins tenté par les séries comme ça en ce qui me concerne. Mais oui, la collection classique, elle est là aussi pour s'enrichir. Je pense qu'elle a fait des envies aussi chez les éditeurs voisins. C'est pour ça que Kana avait sécurisé un certain nombre de licences avant d'attaquer Albator, avant de dévoiler son jeu. Donc il y en a quelques-unes qui sont aussi en préparation chez Kana. Mais Shoujo, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore gratté de ce côté-là. Mais oui, ça fait partie des possibilités, mais je pense que ce ne serait pas avec moi. Il y aurait des gens qui seraient mieux placés que moi pour le faire.
Comme tu disais, faut partager effectivement avec d'autres artistes. Merci beaucoup en tout cas Jérôme pour ces quelques instants. Et puis bon festival.
Merci beaucoup et à très bientôt au 30 septembre pour la sortie de Senseiya. Et puis à l'année prochaine Alex, on se fait la même interview et puis je te dirai comment les gens ont perçu les tomes 1 et 2. J'aurais peut-être moins le sourire, je sais pas, mais ou peut-être encore plus.
Mais si, il aura le sourire. C'était un plaisir de recevoir Jérôme Alquier. Merci encore à lui. Merci aux éditions Kana ainsi qu'à Japan Expo d'avoir rendu possible cet entretien. C'est la fin de ce 73e Anime Story, mais je vous rappelle que tous les autres numéros sont disponibles sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Apple, Deezer ou Spotify. Alors, abonnez-vous! Retrouvez également Anime Story sur le site web anime-story.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut, salut !